route, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Ondes Femmes, Radio Zone avec Viviane. Au micro, Isabelle à la technique, Marjolaine dans les coulisses. Et voilà, nous voilà de retour après deux semaines de repos au soleil. Nous sommes rouge, noir, de toutes les couleurs. Nous en avons profité, c'est très bien. Alors, nous voilà de retour. Fini le soleil, c'est la lune maintenant. La lune qui monte tout doucement dans vos oreilles. Dans quelques instants, les informels sur Radio Pleine Lune.
À genoux, papa, moi aussi. Qu'est-ce que tu penses de la sélection naturelle ?
Laisse-moi.
Hein ?
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, ondes femmes, nos nouvelles. Au Pérou, la situation des femmes devient de plus en plus dure, mais en même temps, les femmes s'organisent pour faire face à la fois à la crise et au terrorisme. Pour les femmes péruviennes, le prix de la violence ne se compte plus. Dans un rapport rendu public en janvier 1993, la section de surveillance du respect des droits de la personne des organismes America Watch and Women Rights Watch des États-Unis accuse à la fois le gouvernement et le Sentier Lumineux d'utiliser contre les femmes à des fins tactiques une violence tout aussi flagrante qu'illégale, bien sûr. Le rapport cite, preuve à l'appui, 40 cas de viol de femmes non combattantes survenus au cours d'interrogatoires par les forces armées ou dans les zones placées en état d'alerte. Le rapport cite aussi de nombreux autres cas de viol survenus dans le cadre des rafles ou des massacres orchestrés par les forces de sécurité. Il indique enfin en détail comment le Sentier Lumineux a assassiné plusieurs leaders féminines depuis 1985, précisant que ce mouvement a systématiquement recours à la violence ou à l'intimidation afin de terroriser les membres d'organismes féministes ou dirigés par des femmes. On peut aussi beaucoup parler de violence contre les enfants, de maltraitance infantile qui se passe bien sûr dans les familles, mais également par l'État. Ainsi, une des préoccupations des militantes de différentes ONG, c'est, je cite, la révision du code des mineurs qui ferait que l'on pourrait condamner à mort des enfants de 14-15 ans qui seraient accusés de terrorisme. Le président Fujimori aimerait de son côté réintroduire la peine de mort pour tout le monde. Le secrétaire de la centrale des Obreros, le syndicat le plus important du Pérou, a été tué en décembre dernier, soi-disant par le Sentier Lumineux. Mais rien n'est moins sûr, puisqu'un nouveau groupe antiterroriste a été créé par le gouvernement, un groupe qui aurait déjà tué plusieurs étudiants. Les différentes ONG au Pérou s'occupent énormément, qui essayent de développer sur place des alternatives, sont très fréquemment menacées et mis en danger par l'organisation du Sentier Lumineux. Selon sa stratégie qui maintenant est connue, appels téléphoniques, menaces de mort, etc. Il faut rappeler que les sendéristes ont tué ainsi Maria Elena Moyano, une leader populaire et la vice-maire de Villa El Salvador. Elle a été assassinée en pleine rue et son corps a été dynamité. comme on l'a déjà dit, le Sentier Lumineux est de toute façon contre toutes les organisations gouvernementales, mais surtout non gouvernementales, et contre tout ce qui vient de l'étranger. Pour les théoriciens du Sentier Lumineux, en effet, les ONG atténueraient les effets de la pauvreté, la mauvaise gestion du gouvernement, et empêchent ainsi les gens de se rebeller et de faire la révolution. Il faut dire aussi que dans le Sentier Lumineux, là, on rencontre énormément de femmes. De l'autre côté de la barrière sociopolitique du pays se trouvent des femmes qui ont toujours épousé la cause du Sentier Lumineux. On a d'ailleurs beaucoup fantasmé sur celles qu'on appelait les dames de la mort. La presse péruvienne a grand tirage à parler des femmes d'Abimael Guzman, celle de González, le nom de guerre du chef suprême du Sentier Lumineux, qui est tombé aux mains de la justice le 12 septembre 92, en compagnie de plusieurs femmes dirigeantes, dont le numéro 2 de l'organisation, Elena Iparaguirre. Il faut dire que la condition pour devenir cadre dans le Sentier Lumineux, c'est d'être très valeureuse, encore plus valeureuse que les hommes, d'être cuirassée contre toute éventualité, y compris les risques de viol par ceux qui les arrêtent. C'est pour ça, dit le journaliste Robin Kirk, qui les a suivies de longue date, qu'elles sont devenues de plus en plus dures, de plus en plus dangereuses. Mais le sentier n'offre pas seulement dépendance et possibilité d'exercer la violence, il a donné à de nombreuses femmes d'un bon niveau d'éducation un poste, une possibilité réelle d'avoir des responsabilités. Selon les informations disponibles, le Sentier Lumineux est la formation politique péruvienne qui compte le plus de femmes à des postes de direction. Cette même source a remarqué que la proportion des femmes condamnées pour terrorisme ayant une formation professionnelle ou ayant fait des études secondaires est supérieure à celle des hommes. Ce n'est pas un hasard. Depuis les années 70, le niveau d'éducation des femmes s'est en effet fortement amélioré, mais l'intégration dans le système professionnel péruvien n'a pas suivi. Le sentier a été totalement attirant pour elles. Il a su habilement dépeindre la situation de frustration de ces femmes et l'exploiter. De plus, il leur a proposé l'idéal d'une lutte politique contre l'injustice et les inégalités. Cependant, d'autres femmes s'organisent, comme on l'a dit, dans des organisations plus populaires pour lutter à la fois contre les violences, violences de toutes parts, des sentieristes, mais aussi de l'État. Ainsi, dans le bidonville de Huayacán, dans la banlieue de Lima, une femme comme Pascuala Rosales a essayé d'organiser tout son quartier. Elle habite le bidonville, habituée à survivre dans un environnement hostile. Elle refuse de laisser le Sentier Lumineux installer progressivement sa mainmise sur le quartier. Elle n'accepte pas non plus la manière dont les forces de l'ordre interviennent. Avec quelques amis, elle choisit la non-violence pour s'opposer à la spirale terrorisme-répression qui empoisonne la vie quotidienne de ce bidonville. En mobilisant ses voisins, elle met sur pied un centre de soins pour enfants, construit un réservoir d'eau supplémentaire. Elle se présente en 1990 aux élections municipales. Elle remporte la victoire et installe son équipe à la mairie de Huaycan. On installe un réseau d'égouts, on assainit les rues. En juin 92, on décide de mettre sur pied un corps d'autodéfense chargé de lutter contre la délinquance dans le quartier. Le corps d'autodéfense n'est absolument pas destiné à faire la chasse aux militants du Sentier Lumineux, avec qui un certain modus vivendi s'est établi. Son rôle se limite à des tâches de police municipale, il n'est d'ailleurs pas armé. Un mois plus tard, Alberto Fujimori, le président, désireux de faire un coup de pub, participe à la fête d'intronisation de ce corps d'autodéfense. Et devant toutes les télévisions du pays, Alberto Fujimori prononce ces mots: « Voici ceux qui vont donner la chasse aux terroristes de Huaycan, nous allons distribuer les armes. » Une erreur monumentale qui glace l'atmosphère, qui ruine un mois de travail. Le délicat équilibre instauré entre les autorités municipales et les gens du Sentier Lumineux est rompu. Quelques jours après, Pascuala Rosales reçoit chez elle la visite d'un commandant armé. Depuis, les menaces n'ont pas cessé de se développer et le 17 janvier, le chef du corps d'autodéfense a été froidement assassiné devant son domicile. D'autres femmes s'organisent aussi au Pérou et entre autres en mettant sur pied des radios. Par exemple, Rosa Palomina Chuarez, une autochtone Aymara de Puno, dans les montagnes du Sud, a décidé de mettre sur pied une émission qui s'appelle Sankai Pankara, le nom d'une fleur en Aymara, une émission qui se fait tout en Aymara et qui parle avant tout de la violence contre les femmes et les enfants. En tant que femme, dit-elle, en tant qu'être humain, nous voulons vivre, nous voulons que cessent les assassinats dont nous sommes témoins. Des femmes et des enfants innocents payent de leur vie le prix de toute cette violence. Comme si ce n'était pas assez, les femmes sont aussi victimes de violences au sein de leur propre famille, de la part de leur propre mari. Heureusement, elles font face à la situation. Les choses se sont un peu améliorées. Mon émission, dit-elle, s'adresse aux paysannes autochtones. Il est donc tout naturel qu'elles soient en aïmara. La situation des femmes de ma région est bien triste. Depuis des années, elles ne sont nullement valorisées et sont traitées comme des bêtes. On considère qu'elles n'existent que pour satisfaire à leur mari. Une autre radio indienne aussi, celle-ci s'exprime en quechua, c'est dans la région de Cuzco, dans le sud des Andes, une émission qui s'appelle en quechua « Varmikinua Rimanchis », c'est sûrement pas le bon accent, ça veut dire « Les femmes parlent », une émission faite par des femmes qui s'adresse aux femmes et à leurs familles. Les auditeurs et auditrices sont incités à participer à l'émission pour des entrevues, des émissions et des sociodrames. Au Salvador, la libération des assassins des 6 jésuites suscite des vives réactions. Les deux colonels, le colonel Bernavides et le lieutenant Mendoza, condamnés à 30 ans de prison pour l'assassinat de 6 jésuites en novembre 89, ont donc été libérés. Ils sont les premiers bénéficiaires de l'amnistie votée quelques jours plus tôt par l'Assemblée législative, malgré l'opposition de nombreux secteurs de la population. Le message est clair, dit le recteur de l'Université jésuite d'Amérique centrale. Au Salvador, on peut assassiner, faire disparaître les gens, torturer en toute impunité. Il y aura toujours une amnistie pour effacer la faute. D'autres militaires, en particulier ceux qui sont accusés d'avoir ordonné le massacre d'une dizaine de paysans à Saint-Sébastien, devraient être libérés dans les prochains jours. Les autorités l'ont laissé entendre, en revanche, que les anciens rebelles du front Farabundo Martí pour la libération nationale, impliqués dans l'assassinat de conseillers militaires américains, pourraient être exclus de l'amnistie. En Pologne, au même moment où on commémore le 50e anniversaire du soulèvement du ghetto juif de Varsovie, les carmélites d'Auschwitz traînent les pieds. Elles refusent de partir malgré l'annonce faite par le Vatican du transfert du Carmel d'Auschwitz dans un autre couvent. Le clergé polonais, lui, refuse de prendre encore position. Sur place, les carmélites se butent. Elles considèrent leur présence dans le camp d'Auschwitz comme un devoir patriotique. Il y a en effet quelques années encore, l'histoire officielle polonaise ne parlait que des Polonais qui seraient morts à Auschwitz. 13 des 14 sœurs refuseraient d'emménager dans leur nouveau couvent. Aux États-Unis, un militant pro-life pour la vie, c'est-à-dire anti-avortement, a tué un médecin qui pratiquait des interruptions de grossesse. Ces faits sont survenus à Pensacola, en Floride, au cours d'une manifestation organisée par le mouvement Rescue America contre une clinique gynécologique. Le meurtrier n'a pas fait de résistance et il a refusé l'aide d'un avocat, estimant que la Bible serait sa seule défense. Sans approuver ouvertement ce meurtre, les leaders de Rescue America ont noté que la mort du médecin équivalait à sauver des centaines de bébés. Ils ont créé un fonds de soutien à la famille du meurtrier. Ils ont leur part de responsabilité. Ils avaient distribué un tract avec la photo, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin, invitant les militants à le harceler. Une tactique employée systématiquement contre les gynécologues avorteurs pour les dissuader de poursuivre leur activité. Les militants pour la vie deviennent de plus en plus agressifs aux États-Unis. Cette année, ils ont aspergé de produits toxiques 5 cliniques de San Diego en Californie et incendié une clinique de Corpus Christi au Texas. C'est leur premier meurtre. C'est bien pour des militants pour la vie. Au Pakistan, retour de Benazir Bhutto. 3 ans après avoir été écarté du pouvoir, l'ancienne première ministre Benazir Bhutto revient sur le devant de la scène politique pakistanaise, appelée à la rescousse par l'homme qu'il avait limogé, le président Isaac Khan. Chef charismatique de l'opposition, la jeune femme a obtenu ce qu'elle réclamait depuis son éviction, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale, la formation d'un gouvernement de consensus chargé d'organiser des élections impartiales. Le limogeage de son successeur à la tête du gouvernement, Sharif, s'est fait avec son accord et après qu'elle lui jetait tout le poids de son parti, le parti du peuple du Pakistan, dans la balance. L'un des principaux motifs avancés par Isaac Khan à la dissolution de l'Assemblée a été la démission massive des députés de l'opposition offerte par Mme Bhutto au président dans l'après-midi de la dissolution en échange d'une participation au nouveau gouvernement. Trafic d'organes d'enfants découverts au Honduras. C'est le président hondurien Calleias qui a confié, je cite, « redouter l'existence d'une filière de trafic d'organes d'enfants dans le pays. Les enfants honduriens seraient kidnappés dans le but de prélever leurs organes pour les revendre », a-t-il déclaré. Le Congrès hondurien a nommé une commission d'enquête pour examiner ce dossier. Selon la police, il existe aussi de nombreux réseaux d'enlèvement d'enfants destinés à l'adoption internationale, à la demande de couples américains ou européens. Le comité de défense contre la disparition d'enfants du pays a précisé qu'il est difficile d'obtenir des témoignages. Les familles concernées se taisent. Affaire de harcèlement sexuel au Sénégal. C'est bien la première fois qu'au Sénégal, une femme ose défier un homme publiquement sur ce thème. Il s'agit de Madame Oumouli, musulmane, divorcée, mère de 6 enfants, et qui donc est la première Sénégalaise à oser défier publiquement un homme en l'accusant de harcèlement sexuel. Et pas n'importe quel homme, il s'agit du chef du service vente d'une grande marque automobile, Monsieur Abdourahmane Diouf. La justice s'est saisie de l'affaire, mais sur plainte de Monsieur Diouf pour dénonciation calomnieuse et pour condamner Madame Oumouli. Cette dernière vient de faire appel, soutenue bien sûr par tout ce que le Sénégal compte d'associations féminines et progressistes. Elle raconte dans un interview en détail tout ce qu'elle a dû subir, les pressions, les tentatives de viol et surtout à la fin le licenciement. Après 15 ans d'ancienneté, dit-elle, et avec 6 enfants à charge. Je suis l'exemple parfait du plus grand risque qu'une femme peut courir en dénonçant le phénomène. Il faut avoir le courage de le faire. C'est bien connu, ou on te saute, ou tu sautes. J'ai sauté pour avoir refusé la première solution, mais je ne le regrette pas. Inutile de dire que si cette africaine a les femmes progressistes avec elle, elle a aussi bien sûr tous les hommes contre elle.
Canada. Le Canada est prêt à reconnaître les violences dont sont victimes les femmes comme motif pour obtenir le statut de réfugié. Fin janvier, au Canada, une jeune saoudienne dont la requête était fondée sur une discrimination dont elle était victime dans son pays en raison de son sexe a obtenu l'asile. Début mars, le ministre de l'Immigration annonçait de nouvelles directives concernant l'étude des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié des femmes invoquant des persécutions ou des craintes de persécution liées à leur sexe. La proposition générale de ces directives indique que, je cite, « même si le sexe n'est pas mentionné de façon explicite comme l'un des motifs permettant d'établir le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, la définition de réfugié au sens de la Convention peut être interprétée à bon droit de façon à protéger les femmes qui démontrent une crainte justifiée de persécution fondée sur le sexe pour l'un des motifs énumérés ou une combinaison de ceux-ci. » Le gouvernement a par ailleurs demandé au personnel chargé d'étudier les demandes d'asile d'accorder une plus grande considération aux cas de femmes victimes de persécutions pour leur seule appartenance au sexe féminin.
En Russie, pour la première fois dans l'histoire de l'armée, 11 femmes vont prochainement être promues au grade de général dans la région militaire de Saint-Pétersbourg. Субтитры создавал DimaTorzok. En Bulgarie, le mal des maternités frappe de façon spectaculaire le pays. Depuis 1965, le nombre des familles ayant au moins deux enfants a diminué de façon spectaculaire. Sophia, du coup, s'inquiète. Le nombre de membres par famille n'atteint presque pas trois personnes. Autrement dit, les familles comportent en moyenne moins d'un enfant. C'est difficile, mais c'est comme ça. Depuis le dernier recensement de 1985, la population a diminué d'un demi-million de personnes. Phénomène lié à l'immigration, entre autres les musulmans bulgares qui sont partis en Turquie au moment où l'ex-régime communiste a essayé de les forcer de changer de nom. Au vu des chiffres publiés, l'augmentation des nombres de retraités met désormais la Bulgarie en tête du classement mondial des nations de vieillards. À Paris, après les élections, 253 femmes ont manifesté pour dire non à l'Assemblée nationale. Devant le Palais Bourbon, les manifestantes revendiquaient la parité homme-femme au cri de 53% d'électrices, 6% d'élus, cherchez l'erreur. Ou encore, vous nous aimez maire, putain, pourquoi pas maire ou député. Parmi elles se trouvaient Denise Cacheux, députée parti du socialiste, et l'ancienne ministre Yvette Roudy. Des nouvelles maintenant du 8 mars dans le monde. Elles sont un peu tardives, mais ça fait rien. Ça fait toujours plaisir de savoir ce qui s'est passé à l'occasion de la Journée internationale des femmes. En Europe, ces journées étaient bien sûr placées, comme à Genève, sous le signe de la solidarité avec les femmes bosniaques. En Allemagne, plusieurs organisations ont exprimé leur solidarité avec ces femmes. L'Internationale socialiste a exigé que les viols liés à la guerre soient reconnus comme motif légitime au droit de l'asile. Dans plusieurs villes d'Italie, également, des mouvements féministes, pacifistes, ces syndicaux sont descendus dans la rue pour protester contre les viols. À Strasbourg, près de 200 personnes soutenaient cette même cause devant le parvis du Palais de l'Europe. La secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Catherine Lanlumière, et les ambassadeurs de 26 États membres ont observé une minute de silence. En Turquie, quelques centaines de femmes protestaient à Ankara devant les bureaux de l'ONU où elles ont déposé une couronne mortuaire en guise de deuil. À New York, c'est le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, qui a pris parole pour dénoncer ces violences sexuelles. À Bruxelles, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le groupe socialiste du Parlement européen a publié des statistiques sur le nombre de femmes siégeant dans les parlements des 12 pays. En queue viennent la Grèce, la France et le Portugal. En tête, l'Allemagne, la Belgique. La fourchette se situe entre 8 et 14%. Le groupe socialiste du Parlement, qui est composé en majorité d'hommes, n'a fait aucun commentaire. Une centaine de femmes ont protesté sur la place de Saint-Pierre à Rome contre le pape qui avait conseillé aux femmes violées de Bosnie de ne pas avorter, de pardonner à leur bourreau. À Moscou, c'est un concert de casseroles, de poêles et de cuillères qui a célébré cette journée du 8 mars. Au milieu d'une foule de plus d'un millier de personnes, des femmes, relativement âgées pour la plupart, ont protesté contre la pénurie, la pauvreté engendrée par la politique de celui qu'elles nomment le boucher du peuple russe, vous avez compris, Boris Eltsine. En Amérique latine, le président argentin a signé à l'occasion de cette journée un décret obligeant les partis politiques à inclure 30% de femmes sur leur liste de candidats à toutes les fonctions publiques. Quant aux Colombiennes, elles ont, elles, appris une bonne nouvelle, elles seront obligées d'effectuer un service militaire de 12 à 24 mois quand les circonstances l'exigeront. C'est ce que vient de signer le président Gaviria le jour même du 8 mars. À Guatemala City, quelques 500 indiennes ont défilé dans les rues pour réclamer la fin de la répression et du recrutement militaire qui déchire les familles. Les grandes villes brésiliennes ont été bien sûr le théâtre de nombreuses manifestations qui ont surtout parlé du droit à l'avortement qui n'est reconnu qu'en cas de danger pour la santé de la mère. C'est la préoccupation principale des brésiliennes. Au Honduras, la députée de l'opposition, Rosario Godoy, a été décorée par le mouvement des femmes pour la paix pour sa lutte contre le trafic d'enfants. À Mexico, quelques 2000 Mexicaines ont manifesté dans le centre de la ville pour le droit à l'avortement et dénoncé le harcèlement sexuel. À La Paz, 500 Boliviennes ont dénoncé dans la rue la politique néolibérale du gouvernement et réclamé des meilleurs salaires. Cuba, il n'y a eu qu'une conférence. Quant au monde musulman, l'intégrisme religieux a été mis en cause en Afghanistan. Un groupe de femmes a publié à Islamabad un communiqué critiquant les factions moudjahidines fondamentalistes qu'elles rendent responsables des destructions commises dans leur pays. Ailleurs dans le monde, à Mogadiscio, quelques 300 somaliennes ont réclamé une réconciliation pacifique des peuples en Somalie. Enfin, à Manille, aux Philippines, les députés ont symboliquement pris la direction de la Chambre des représentants pour marquer cette journée. Le président de la Chambre a cédé sa place à une présidente pour quelques heures. À l'ordre du jour, on a discuté des questions comme le divorce, les femmes battues et la prostitution. En Suisse, une association défend la place de la femme dans la politique. L'association des femmes au Conseil fédéral lancera une initiative pour l'égalité des chances politiques. Une centaine de personnes ont fondé à Berne cette association des femmes au Conseil fédéral qui entend lancer en juin une initiative populaire demandant une représentation minimale de 40% des deux sexes au sein des autorités fédérales. Après 700 ans de patriarcat, disent-elles, il faut enfin tenir compte de cette revendication. L'association des femmes au Conseil fédéral est composée de personnes venant de toute la Suisse, de tous les partis, s'y rassemblent des représentantes d'organisations féminines, syndicats, des signataires d'anciennes initiatives demandant des quotas féminins dans les institutions politiques. Dénonciation contre le trafic et la prostitution des enfants en Thaïlande. Ces enfants de la prostitution qui sont les nouveaux esclaves. Les hommes les veulent de plus en plus jeunes, entre autres pour éviter le sida. 75 000 Suisses se rendent chaque année en Thaïlande. À Pattaya, un village de pêcheurs, s'est transformé en mecque du tourisme sexuel en Thaïlande. Il accueille une bonne partie des 5 millions de voyageurs, dont 75 000 Suisses, qui chaque année se payent leur tranche de sexualité et d'exotisme. On compte en Thaïlande entre 30 000 et 800 000 enfants qui s'adonnent à la prostitution. Partout en Asie, les chiffres iront en augmentant, puisque par risque du sida, les clients qui ne se recruteraient pas nécessairement chez les pédophiles recherchent des partenaires de plus en plus jeunes, risquant ainsi moins d'être contaminés. On essaye également le groupe de travail qui s'oppose en Suisse à cette prostitution estime qu'on peut mener aussi la lutte en Suisse, par exemple en luttant contre les agences de voyage et en leur proposant de renoncer à vendre certaines destinations ou en promulguant une loi qui punirait dans son pays d'origine toute personne ayant eu un rapport sexuel avec un mineur. Une utopie lorsqu'on sait que le gouvernement thaïlandais ferme déjà les yeux sur les lois existantes. La police ne coopère pas, explique le comité, sauf pour arrêter les enfants plutôt que les propriétaires des bordels. Ces derniers sont souvent des Occidentaux, des Suisses aussi, qui bénéficient des appuis nécessaires pour répondre en toute impunité aux besoins sexuels de leurs compatriotes venus chercher des palliatifs à leur frustration. À propos d'ailleurs d'histoire de pédophiles avec la Thaïlande, à la suite d'une émission télévision, le Comité international pour la dignité de l'enfant, le CID, a saisi la justice argovienne pour qu'elle enquête sur un argovien soupçonné d'avoir fait venir en Suisse un enfant philippin de 14 ans pour en abuser sexuellement. Le CID a déposé dénonciation auprès du ministère pour traite d'êtres humains et attentat à la pudeur des enfants. L'homme avait témoigné à la télévision, filmé par une caméra cachée pour l'émission de TF1 52 sur la rue. Il avait raconté comment il avait fait sortir de leur pays 7 mineurs philippins sous couvert d'adoption. Il a reconnu avoir agi dans le cadre d'un réseau de trafic d'enfants. En Suisse toujours, les assurances maladie ne rembourseront pas la fécondation in vitro. Toutes les conceptions assistées par le biais de la fécondation in vitro, transfert d'embryons, etc., ne sont pas, d'après le tribunal fédéral, une mesure médicale. Elle ne sera donc pas prise en charge par les assurances.